Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. Si nous parlions d'histoire, tiens, aujourd'hui, mais avec des romanciers. Alors le principe est le suivant, tout est vrai. Tout est documenté, mais l'imagination est également là. Et ils savent rendre la connaissance joyeuse, parfois tragique, en tout cas addictive. Vous allez le voir, ce sont des as du rebondissement, des voltigeurs de la langue. Ils traquent le mot juste, la phrase forte, la formule qui claque. Bref, ils font de notre histoire un moment absolument passionnant. J'accueille Éric Emmanuel Schmitt, Eddie Cadour, Jennifer Richard et Eugène Ebaudet. Bonsoir.
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 Je suis ravi de vous rassembler ce soir. Bonsoir Éric Emmanuel Schmitt.
Bonsoir.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, tiens.
Oui. Depuis le temps que je vous regarde, j'avais envie de venir.
Dramaturge et pilier aussi de cette émission, il faut bien le dire. Dramaturge joué dans le monde entier, romancier, publié dans le monde entier, membre de l'Académie Goncourt, mais vous êtes aussi acteur et directeur de théâtre. Vous nous proposez un projet qui est quand même absolument, absolument fou. Oui. Et je dois vous dire que même si je vous suis depuis très longtemps, quand j'ai eu le livre en main, je me suis dit, là, je suis embêté, parce que c'est un écrivain que j'aime beaucoup, mais il va trébucher, on ne peut pas réussir ça. C'est impossible, voyons, la traversée des temps, raconter l'histoire de l'humanité, 8000 ans, avec près de 8000 pages, c'est ce que vous nous promettez, un premier volume qui en fait 600, et qui pourtant se dévore, ça s'appelle tout simplement « Paradis perdu ». Votre éditeur prévient, par votre éditeur, c'est un peu vous tout de même. Hein. Mmh. C'est la rencontre entre Sapiens de Yuval Noah Harari et les grands romans d'Alexandre Dumas. Ben, vous savez quoi? C'est vrai. En invitant Éric Emmanuel Schmitt, qui publie quoi? 2 livres par an? À peu près.
Oui, hein. Je me retiens. Mmh.
J'ai eu envie d'inviter votre exa-opposé, qui est Eddie Cadour. Bonsoir, Eddie Cadour.
Bonsoir.
Je suis ravi de vous accueillir. Alors vous, c'est l'inverse. 4 livres en 20 ans.
Oui, quinquennat, oui.
Voilà, le quinquennat selon Eddie Cadour. Vous nous faites languir, mais c'est pour mieux nous donner matière à réfléchir et puis surtout à se divertir. On peut faire les deux d'ailleurs, réfléchir tout en se divertissant peut-être, on en parlera. Ce roman, La nuit des orateurs, qui vient de paraître chez Gallimard, nous transporte au cœur de l'Empire romain. Alors, il y est question de la puissance du langage et notamment de l'éloquence, mais aussi de la femme d'un grand écrivain. L'écrivain s'appelle Tacite. Et on verra ce que sa femme, une nuit romaine, est capable de faire. Je rappelle, Eddie Cadour, que vous êtes né à Tunis, que vous êtes traducteur de l'anglais, de l'allemand, de l'arabe, et que vous avez longtemps enseigné à Normal Sup, je crois.
Oui, traducteur occasionnel, hein. c'est pas une carrière. C'est quand j'ai un livre que j'aime bien et que la possibilité s'en offre, je le fais. Et voilà, et effectivement, j'ai enseigné à l'École normale supérieure de Lyon pendant un bon quart de siècle. Enfin, j'ai fini ma carrière, là.
Alors, à vos côtés, quelqu'un qui la commence, sa carrière. Jennifer Richard, bonsoir.
Bonsoir. Je ne la commence pas tout à fait, quand même.
Oui, mais je crois que là, vous entrez de plus en plus dans cette littérature qui est à la fois populaire, exigeante, romanesque, documentée et de manière formidable. J'ai vu que vous étiez franco-américaine, originaire de la Guadeloupe, que vous avez passé votre enfance entre la côte ouest des États-Unis, mais aussi Tahiti, ou Alice et Futuna. Vous brossez, vous, le portrait d'un personnage, Jennifer Richard, qui est un oublié de l'histoire, un véritable héros de roman, enfin aussi un véritable salaud de roman. Un aventurier sans scrupules, devenu milliardaire, qui a vendu des armes au monde entier et que Romain Gary a qualifié un jour de plus grand marchand de mort des temps modernes. Le diable parle toutes les langues. C'est le titre de votre roman que j'ai trouvé très réussi et dont on va parler abondamment aussi ce soir. Eugène Ebaudet. Bonsoir Eugène.
Bonsoir.
Eugène Ebaudet, vous êtes né-vous à Douala, au Cameroun, où nous entraîne, alors en partie, votre nouveau roman que j'ai adoré. Brûlant était le regard de Picasso, c'est le titre. Le destin d'une jeune métisse sur fond de violence du colonialisme. Somptueux portrait de femme, notamment auprès de Picasso, mais on croise aussi Chagall, Miro, Chanson, Dali et bien d'autres. Mais aussi remarquable histoire de la résistance vue d'Afrique pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'aimerais que vous m'expliquiez, les uns et les autres, pour quelles raisons vous avez choisi le roman, c'est-à-dire, en réalité, l'imagination plutôt que l'essai, la biographie, le document historique, pour raconter l'histoire. On va de l'humanité à nos jours, hein, Éric Emmanuel Schmitt. Pourquoi l'imagination plutôt que l'exactitude de l'écrivain qui est historien et pointe les documents ?
Le réel a du talent, mais pas toujours un talent artistique. Je veux dire, si on est obligé de raconter le monde tel qu'il est, ça peut un peu gauchir le récit. Alors autant s'emparer, faire un récit qui va s'installer, je dirais, dans l'histoire, dans son fond, et raconter l'histoire, mais avec, je dirais, les caractéristiques d'un récit, l'emportement d'un récit. Puis moi, j'aime le roman historique parce que le roman, c'est le contraire de la ruine.
C'est le contraire de la ruine.
Ben oui, on va à Rome, on marche dans des ruines. On n'est pas dans la Rome qu'on va par exemple retrouver si on lit le livre d'Édicadour. C'est-à-dire que le roman rend vivant ce dont on n'a plus que des vestiges, des traces, et c'est sa force absolue.
Édicadour.
Moi, j'ai l'habitude de dire que quand je tombe sur quelque chose dont je peux me dire « c'est pas possible et ça s'invente pas », il y a la matière d'une bonne histoire. Après, il va falloir mettre en récit, mais et quand on a ça, on sait que on a la pépite, quoi.
Voilà, il faut l'anecdote et puis les blancs dans l'anecdote, oui. Parce que le romancier va s'emparer des zones blanches.
Jeanne Ebaudet, vous, est-ce que vous avez le sentiment que l'imagination est nécessaire au travail d'historien ?
Oui, parce que l'histoire a ses trous et ses flous. Et je pense que l'imagination permet à la fois de les combler et puis d'y jeter un brin de lumière. C'est ce que j'ai essayé de faire.
C'est aussi dans vos cas, Jennifer Richard et Eugène Ebaudet, surtout dans vos deux cas, des romans sur l'exercice du pouvoir comme chez Édicadour, mais vu dans vos cas particuliers du point de vue des faibles, du point de vue de ceux dont on ne racontait pas l'histoire. Est-ce que ces livres qui, à mon avis, n'auraient pas pu être publiés il y a une dizaine d'années correspondent à aussi ce qu'on pourrait peut-être appeler une libération de la parole du côté du récit historique ?
Il me semble qu'il y a eu beaucoup d'écrits après la Première Guerre mondiale, en particulier sur le massacre de tous ces hommes. Je pense qu'il y a eu une révolte après les gros conflits, après les grosses crises comme ça. Donc il me semble que la parole que j'ai voulu donner à un moment à une mère de poilu, par exemple, je pense que ça aurait pu être écrit à d'autres époques où vraiment la colère ressort, mais par tous les pores de la société.
Moi, je suis complètement de l'avis de Jennifer. Je pense que ce mouvement commence après la guerre 14-18, ouais. Et avec des auteurs aussi comme Stefan Zweig, qui ne racontent que l'histoire de vaincus. C'est jamais les vainqueurs, les personnages de Stefan Zweig. Et je crois qu'on a commencé, après la guerre 14-18, après cette boucherie immonde, à raconter l'histoire des vaincus.
Et puis, la Deuxième Guerre mondiale nous a montré que certains sont revenus et se sont presque emmurés dans un silence parce que les épreuves traversées, les tragédies vécues étaient presque difficiles à raconter. Et puis, si on se place du côté des vaincus, ou de ceux qui ont été oubliés précisément, comme les tirailleurs sénégalais, c'est parce qu'ils ont à la fois été parfois démobilisés, oubliés, voire parfois massacrés.
On évoquera tout à l'heure sans doute le massacre de Tiroy.
Oui.
Et on va commencer, si vous le voulez bien, chronologiquement avec vous, Éric Emmanuel Schmitt. Voilà. Si on racontait l'histoire de l'humanité, mais sous forme de roman, Paradis perdu. Alors Noam, le personnage principal de cette formidable fresque, est immortel. Rendez-vous compte, il vit depuis plus de 8000 ans. Il a donc été le témoin de toutes les évolutions de l'humanité, de tous ces drames également, comme le déluge par exemple. Et aujourd'hui, eh bien, imaginez qu'il écrive ses mémoires. Il raconte son épopée, d'abord auprès de son père, dont il va découvrir les secrets et le tempérament de tyran, mais aussi auprès du grand amour de sa vie. Ah oui, chercher la femme, ça c'est le point commun, hein, dites-moi, dans tous les livres. De la vie sauvage à la civilisation, qu'avons-nous perdu, qu'avons-nous égaré, qu'avons-nous trouvé également ? Eh bien, ce sont quelques-unes des questions que soulève ce roman qui est érudit, qui est une quête initiatique, pleine de rebondissements. Qu'est-ce qui vous a inspiré, Éric Emmanuel Schmitt, ce projet qui est à la fois titanesque et franchement un petit peu fou et honnêtement un peu mégalo aussi, de raconter en 8 volumes l'histoire de l'humanité depuis ses origines ?
C'est une idée qui m'a traversée lorsque j'avais 25 ans. Mais à 25 ans, j'étais incapable de faire ça. Je pouvais avoir l'idée, c'est tout. Et c'est devenu un projet de vie. C'est-à-dire que tout ce que j'ai lu pendant des décennies permettait de construire ce grand récit. Et puis aussi, tous les livres que j'écrivais étaient une fin en soi, mais aussi préparatoires. J'essayais d'élargir mon souffle pour pouvoir arriver peut-être à produire un jour ce roman. Noam est né il y a 8000 ans, mais il faut bien voir qu'il se réveille aujourd'hui. Dans le livre, c'est-à-dire qu'il se réveille dans notre monde, dans ce 21e siècle, parce qu'il hiberne régulièrement. Et il découvre l'angoisse contemporaine et il se rend compte que quelque chose a changé. Et il va nous expliquer ce qui a changé. C'est-à-dire qu'il découvre un monde qui a tout d'un coup un souci écologique, c'est-à-dire que l'homme tout d'un coup n'a plus besoin de Dieu ou de la nature ou des dieux pour provoquer un déluge et une catastrophe, mais l'homme est lui-même à l'origine d'une éventuelle catastrophe qui l'empêcherait de vivre.
Ce que je trouve formidable dans ce roman, c'est que vous mettez en histoire ce que les scientifiques nous ont appris récemment. Pour commencer, ceci, c'est qu'à l'époque à laquelle vous nous ramenez, c'est-à-dire le néolithique, bon, il y a 8000 ans, on ne vivait pas, on survivait. Il s'agissait de s'adapter. On ne vieillissait pas. Le temps choisissait pour nous. On n'avait pas le temps, dit à un moment Noam.
On n'avait pas le temps. Et en même temps, on travaillait moins. C'est-à-dire que quand nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, finalement, étaient peu nombreux dans une nature assez généreuse et passaient assez peu de temps à s'occuper des nécessités de la survie et avaient du temps pour, je ne sais pas, rêver, jouir. Et à partir du moment où l'homme est devenu sédentaire, il y a eu un piège.
Oui, on a le sentiment que c'est aussi une charge. Je retrouve le centre de votre livre, hein, Jennifer Richard. Charge terrible contre la naissance du capitalisme, en fait. Vous semblez dire que c'est au moment où l'homme se sédentarise, que tout à coup, les choses dégénèrent.
L'accumulation
de biens. C'est ce que disait Rousseau dans le discours sur l'origine de l'inégalité. Mmh. Le premier homme qui en sert un champ en disant « ceci est à moi » est à l'origine de la société civile, à l'origine de toutes les inégalités. C'est effectivement le moment où nos ancêtres cessent d'être nomades et jouisseurs pour s'installer, généralement dans des cités lacustres, parce qu'il y a la proximité de l'eau et de la nourriture, et bien à partir de là commence la propriété, commence la division du travail, on se met à travailler beaucoup plus, mais chacun se spécialise, on passe du savoir partagé, qui était celui de nos ancêtres, à des savoirs particuliers, et donc plutôt à l'ignorance partagée dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et puis, c'est aussi la condition de la femme qui se crée à ce moment-là, puisque chez les chasseurs-cueilleurs, les femmes vivaient comme les hommes et faisaient peu d'enfants parce qu'il fallait les transporter. Et donc, à partir du moment où l'homme se sédentarise, la femme fait plus d'enfants, la femme est au foyer, on crée le foyer et on crée un asservissement et le patriarcat. Donc, on vient de ce moment-là.
C'est ce moment de bascule, hein. Création de l'asservissement, la fin de la liberté, mais presque consentie, et naissance du patriarcat, qui vous intéresse dans le roman.
C'est-à-dire, on ne sait jamais ce qu'on met en route dans l'histoire humaine quand il y a un changement technique ou un changement social. On ne sait jamais quelles vont être ses conséquences. Et c'est avec le recul qu'on découvre ses conséquences. Mais là, effectivement, il y a une bascule. Et Noam, mon personnage, est dans cette bascule. Il va hésiter entre la vie du village dont son père est le chef, mais son père est un magnifique pervers narcissique, donc c'est assez difficile d'avoir un père comme ça. Et puis,
ce qu'il va découvrir très lentement, parce que c'est aussi l'éveil d'une conscience découverte que l'homme bon est en réalité un tyran.
Oui, c'est la rencontre avec Noura, la femme de sa vie, qui va le faire naître à lui-même. Avant, il menait la vie d'un autre. Il menait la vie que menait un membre du clan. Il n'était pas individué. Et tout d'un coup, c'est la rencontre amoureuse en l'occurrence, qui va faire surgir en lui ce qu'il est. Et du coup, ça va l'opposer au père, ça va l'éloigner du village. Il va vivre cette vie aussi de chasseur-cueilleur.
Il quitte le village, hein, et il part découvrir la vie sauvage. Est-ce que vous ne l'idéalisez pas un tout petit peu, cette vie sauvage? Parce que vous citiez Rousseau tout à l'heure, mais j'ai un peu l'impression que vous nous renvoyez comme ça à nos classiques, à ce contrat social, à cette idée très...
Complètement.
Daniel Defoe et Robinson. Le retour à cette vie sauvage, mais alors,
j'assume.
Esthétisée.
J'assume, parce qu'à un moment, il y a une note d'ailleurs où Noam raconte qu'un jour, au XVIIIe siècle, il est à la prison de Vincennes.
Oui, ça j'adore. Il croise Diderot.
Et il croise Diderot et Rousseau. Enfin, Diderot est emprisonné pour athéisme et Rousseau vient lui rendre visite. Et tout d'un coup, un jour où il a trop bu, il parle de son oncle Barak en faisant croire que c'est une histoire inventée. Et Rousseau lui dit, j'ai trouvé. Ouais. Et c'est le bon sauvage dont Rousseau va nous parler.
C'est quand même gonflé parce que...
Je m'amuse.
Non mais voilà, il s'amuse énormément, Éric Emmanuel Schmitt. C'est-à-dire que tout est dans le récit de Noam, tout est d'une rigueur historique totale, hein, et encore une fois avec les dernières avancées de la science. Et puis tout à coup, vous divaguez, vous digressez, et vous nous offrez des moments cocasses et farfelus. La rencontre avec Herman Melville qui vous pique, enfin qui pique à votre personnage, Bartleby.
Bartleby, exactement. Oui. Et puis la rencontre avec Einstein aussi.
Oui. Que votre personnage va sauver de la noyade.
Oui, parce que Einstein était très très maladroit.
Parce que les génies sont maladroits.
Oui, mais c'est ce que dit à un moment Noam. Il dit finalement, la civilisation, ça fait en sorte qu'il n'y a plus aucun homme comme dans le passé qui sait tout faire de ce que c'est faire un homme. Parce que les hommes du passé savaient tout, ils savaient coudre, ils savaient chasser.
C'est une connaissance encyclopédique,
voilà,
presque.
C'était le savoir était partagé. Aujourd'hui, c'est l'ignorance partagée parce qu'effectivement, un homme comme Einstein est absolument pointu dans un domaine et exhaustivement nul sur tous les autres domaines. Donc Noam dit que finalement, la civilisation a permis la survie des imbéciles. Et des génies, les imbéciles qui sont bons à rien et les génies qui sont bons à une seule chose.
On apprend énormément de choses, disais-je tout à l'heure dans votre livre, et notamment grâce aux notes de bas de page, par exemple sur la représentation que l'on se fait traditionnellement de l'homme préhistorique. Alors là, c'est le néolithique, hein. On est à ce moment de bascule, vous l'avez dit, mais où on n'est pas encore totalement du côté de l'homme tel qu'on le voit physiquement aujourd'hui, plus du côté, évidemment, de Cro-Magnon. Comment faut-il se le représenter ? On dit souvent qu'il n'a plus de dents, par exemple.
Il n'a plus de dents.
Les dents gâtées.
Oui, nos ancêtres avaient de bien meilleures dents que nous, grâce à l'alimentation qu'ils avaient. Ils ne mangeaient pas de choses transformées. Ils mangeaient de la viande et puis des fruits. C'est à partir du moment où il va y avoir des céréales, des farines, avec parfois des bouts de meule dans la farine, que les dents de nos ancêtres vont se détériorer. Et puis la grande détérioration, elle est très récente, c'est la révolution industrielle avec le sucre. Donc nous avons des dents en beaucoup plus mauvais état que nos ancêtres.
Je reviens aussi à ces choses que vous nous faites découvrir. Tiens, par exemple, je découvre page 267, à quoi sert ceci ?
Ah, j'avais pas vu.
Alors, vous qui nous regardez, si vous avez du céleri, de préférence du céleri sauvage, vous allez découvrir dans Paradis perdu ses vertus. Éric Emmanuel ?
Non, mais. Il faut aller jusqu'à la page
271. Le rôle du céleri sauvage comme aphrodisiaque. Oui. Votre personnage dit que c'est un pénis végétal.
Oui, on appelait ça comme ça, dans le passé.
Quel est l'enjeu pour un romancier de raconter ce genre de choses ? Raconter l'histoire des dents gâtées qui n'existaient pas, l'histoire de l'alimentation dont on ne parle quasiment jamais, la façon dont on se représentait aussi, les aliments, la manière dont les esprits pouvaient habiter toutes les choses du quotidien, y compris notre cuisine.
Pour moi, c'est offrir au lecteur un grand voyage qui va lui ôter ses catégories qui sont celles de notre civilisation. On est dans une civilisation un peu cartésienne, avec une philosophie du sujet qui est au centre, etc. Et là, dans Paradis perdu, Noam est absolument aux antipodes de cette philosophie qui est dominante chez nous, puisqu'il est dans un monde animiste, il est dans un monde où l'homme n'a pas le privilège de l'esprit, et de l'âme, mais où il y a des âmes partout dans le ruisseau.
Il n'y a pas un dieu, il y a des dieux.
Il y a des dieux, des démons et des âmes et des esprits.
Alors Noam, votre personnage principal, va affronter le déluge.
Oui.
Et là, ça devient très intéressant, car au lieu de nous présenter une énième version du déluge telle que la Bible nous le raconte, vous le mettez dans une perspective quasiment historique, de suite de légères extinctions successives. C'est plus le ciel qui envoie le déluge, c'est la terre. Ce n'est pas Dieu unique, ce sont les hommes. Qu'est-ce que vous montrez dans ce déluge, où il n'y a plus de bateaux hein, d'ailleurs, ce sont des villages lacustres qui vont servir d'esquifs.
Oui. Aujourd'hui, on pense que les récits du déluge qu'on peut trouver dans la Bible ou dans la légende de Gilgamesh en Mésopotamie sont des souvenirs de quelque chose qui s'est réellement passé. Mmh. Et depuis les années 1990, on a même des hypothèses assez précises sur ce qui s'est passé. Il y a bien eu un déluge, mais pas un déluge universel, comme le racontent les textes sacrés ou légendaires, mais un déluge local, qui est le fait qu'après l'époque glaciaire, eh bien, les glaciers ont fondu et la Méditerranée a monté de 140 mètres. Et quand elle est montée de 140 mètres, elle a passé ce qu'est aujourd'hui le Bosphore, qui n'était pas un détroit à l'époque. Et elle s'est déversée dans les plaines ukrainiennes et elle a formé la mer Noire. Et ça, maintenant, on le sait, puisqu'on a trouvé au fond de la mer Noire des fossiles d'eau douce. Donc, il y a eu un lac avant la mer Noire. Et donc, cette théorie est maintenant prédominante.
Mais que feraient les romanciers s'il n'y avait pas les scientifiques ?
Mais c'est-à-dire que peut-être que la science, c'est juste la fiction d'aujourd'hui. C'est-à-dire, les hommes, à toutes les époques du monde, les hommes s'accordent sur une fiction pour comprendre le monde. Mmh. Et moi, dans cette saga, je vais faire l'histoire des fictions successives qui ont permis aux hommes de se rassembler et de faire société et de comprendre le monde.
Est-ce que ça veut dire que c'est une anti-Bible, cette suite ?
C'est une anté-Bible. C'est-à-dire que quand vous dites au début que j'étais un peu fou, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est-à-dire que j'écris l'histoire que la Bible a ensuite déformée.
Ah tiens, racontez-moi. Voilà.
C'est-à-dire l'histoire de Noam, ce déluge qu'il a vécu, a été transformé dans la Bible, en l'histoire de Noé. Parce que qu'est-ce que c'est la Bible ? C'est déjà une interprétation de cet événement naturel qu'est le déluge. C'est de dire Dieu punit l'homme pour son insolence, pour sa prétention, etc. Mais en même temps, Dieu choisit un homme pour sauver les autres hommes et sauver les animaux. Et à partir de là, on rentre dans l'histoire humaine. Mmh. C'est-à-dire l'homme pense qu'il est responsable, supérieur, c'est-à-dire qu'il a la charge du vivant et il est le maître du vivant, c'est Dieu qui lui a donné.
Donc là encore, autre moment de bascule, c'est ce qu'on appelle l'anthropocentrisme, ce moment Exactement. Où on ne voit plus le monde et les choses que Exactement. Par rapport à nous-mêmes, c'est ça ?
Alors il y a encore Dieu qui provoque l'anthropocentrisme, si vous voulez, mais c'est bien l'anthropocentrisme, c'est-à-dire que l'homme est au centre et rentre dans une histoire dont il est l'auteur. C'est pour ça que j'ai choisi le déluge comme le premier moment de bascule de mon histoire, parce que c'est le moment où on rentre dans l'histoire, c'est c'est-à-dire l'homme devient l'auteur de sa propre vie. Parce que moi, c'est ça qui me fascine le plus, c'est qu'une fourmilière, c'était pareil il y a 100 000 ans. Ouais. La société humaine, c'est toujours différent. Regardez d'ailleurs entre l'année dernière et aujourd'hui, en un an, comme notre vision de la société a changé, et comme la société elle-même a changé, et comme la conscience mondiale a changé. Donc l'histoire humaine, elle est toujours fluctuante, elle est toujours en train de se réinventer et de se refaire. Et je voulais raconter comme ça ces grands fondements.
Est-ce qu'il y a une leçon du déluge à tirer pour aujourd'hui sur cette planète que nous ne cessons d'exploiter, puisque ça aussi, c'est un des sujets qui est la toile de fond de votre roman ? La naissance de l'exploitation de la planète, génération après génération, vous le montrez très bien.
Oui, je pense qu'on vit un moment historique où pour la première fois, on se rend compte qu'on est allé trop loin. L'humanité se rend compte qu'elle a transformé la planète en sa scène, l'anthropocène. Mmh. Elle a exploité la planète, elle a supprimé des espèces, elle a transformé le paysage, elle est en train de transformer le climat. Je crois que c'est absolument... On prend conscience de ce que nous faisons, nous, hommes, depuis des millénaires, parce que peut-être on est allé trop loin. Et cette conscience-là, elle est totalement neuve. C'est pour ça que le livre « Au présent » commence aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on en fait de cette connaissance qui peut effectivement être un petit peu angoissante ? Est-ce qu'on se dit bah, « Tiens, revenons sur le passé ».
Non.
Est-ce que... Alors,
Non. La régression, ça ne marche pas.
C'était pas mieux avant. Vous n'êtes pas en train de nous dire la vie sauvage, l'absence de civilisation.
Non, paradis perdu, c'est parce que on a tous perdu des paradis, mais les paradis reviennent. Ce que je veux dire, c'est qu'on est tous fugitivement capables de se retrouver comme les hommes du passé dans la nature, et le paradis revient fugitivement, où la poésie nous donne ça, et la littérature aussi, et puis l'expérience du monde. Non, mais c'est un appel à la responsabilité, bien sûr. C'est-à-dire que je suis très pessimiste à la façon de Kant sur le destin de l'humanité. C'est-à-dire que je pense que l'humanité ne progresse qu'à travers des catastrophes, et que c'est le mal qui est le moteur du progrès. Et non pas la volonté de faire bien. Kant, dans sa philosophie politique, nous dit c'est parce que les guerres vont devenir mondiales qu'il faudra qu'un jour il y ait une société des nations qui essaye de régir les conflits. C'est-à-dire que l'homme progresse jamais par volonté du bien, mais pour éviter le pire. Donc après une catastrophe qui est advenue. Donc je crois que là, il y a d'ailleurs une pandémie qui est une catastrophe, qui va peut-être nous apprendre quelque chose sur notre monde. Et puis malheureusement, il va y avoir sans doute des catastrophes liées au climat qui vont nous apprendre aussi quelque chose sur nous et qui vont nous faire réagir. Donc oui, on progresse, mais pour éviter le pire, jamais en voulant le bien.
Élie Kadour, cette
description. Oui, c'est ce que la Russe de la raison également.
Oui. Oui. Vous vous retrouvez dans cette description du progrès qui ne se fait que parce que le mal est le moteur finalement de l'histoire.
Il avance en liquidant les acteurs qui lui ont permis d'avancer.
C'est aussi un livre sur l'écriture. Il y a de très belles pages qui sont une réflexion sur l'écriture. Mais alors, j'aimerais que vous m'expliquiez deux, trois choses. Parce que je lis page 536. Ceci, c'est Cham. Cham est un personnage que je laisse le soin aux téléspectateurs de découvrir quand il deviendra lecteur. Cham dit à un moment qu'il devient conteur pour améliorer le confinement auquel il avait contraint le héros.
C'est écrit avant. Mon propre confinement, le nôtre. Oui, on l'a découvert pendant cette période, la nécessité de la fenêtre de la littérature et de l'imaginaire. Parce que ce dont on crève en ce moment, dans ce confinement, c'est d'être condamné à soi. C'est l'hypertrophie du moi. Moi, ma compagnie ne me suffit pas. J'ai besoin d'aller vers les autres, j'ai besoin d'aller au restaurant, rencontrer les autres, j'ai besoin d'aller au spectacle, me nourrir du talent des autres. Alors je peux lire, heureusement, mais je ne peux pas recevoir mes amis, etc. etc. Et donc on est en train de crever d'être nous-mêmes et seulement nous-mêmes. Et ça, c'est inhumain. C'est les deuxièmes morts du Covid, ça.
Vous écrivez également qu'il faut, je cite, un mélange de combustible noble et de combustible ignoble. Ouais. Pour faire une grande œuvre, un grand roman. Ah, alors ça, tiens, le noble, je peux comprendre, mais pourquoi faut-il un mélange du noble et de l'ignoble ?
Bah, vous qui recevez beaucoup d'écrivains, vous savez que certains ont un grand moteur dans la vanité, mais ça leur permet de faire des bons livres. Certains aiment l'argent, ça ne les empêche pas d'écrire des bons livres. On ne fait pas toujours les bonnes choses pour les bonnes raisons.
Vous vous situez où, vous, par exemple, côté vanité et argent ?
Non, mais je sais.
Joker.
Non, mais je sais que je me sers en fait parfois de ce que j'estime les combustibles ignobles pour avoir la force d'avancer. Oui, parfois il m'est arrivé d'avoir envie de prendre une revanche sur quelque chose que quelqu'un m'avait dit qui m'avait humilié ou qui m'avait déplu. Oui, j'étais capable de me nourrir de ressentiments
pour trouver
de la force.
La meilleure vengeance, c'est de vivre bien, je pense, et le succès suffit. On n'a pas forcément besoin ensuite de le jeter à la face de des personnes qui nous ont méprisés ou qui ne nous ont pas regardés pendant un moment. Je ne sais pas si c'est une vraie motivation, mais en tout cas, le succès peut faire du bien et peut suffire.
Ah, ça, je vous le confirme. Mais j'aime pas l'angélisme qui consiste à dire qu'on fait des choses bien pour des bonnes raisons. On fait aussi des choses bien pour des mauvaises raisons. Voilà.
Moi, j'ai le souvenir d'un livre que j'ai lu récemment de Marine Diaye, « La vengeance m'appartient ». Et effectivement, elle traite de ce thème, mais à sa manière. Et dans le brûlant, eh bien, je convoque aussi des méchants. Et d'ailleurs, il y a Jérémie, le prophète Jérémie, qui passe par là et qui s'écrie, interpelle le Créateur en lui disant « Pourquoi, mon Dieu, les méchants vivent-ils ?» Donc il y a toujours cette présence des méchants qui sont là pour révéler aussi ce qu'il y a de bon et de bien dans ce monde.
Et il y a une question que pose Eugène Ebaudet dans son livre, page 134, et cette question, j'ai envie de vous la poser à tous les quatre. Quelle couleur, quelle odeur ont ces époques auxquelles vous nous ramenez ? Quelle couleur, quelle odeur, le néolithique ?
Le néolithique, contrairement à ce qu'on pense, il est rouge et jaune, parce que les hommes avaient trouvé les moyens de mettre ces pigments, et tout ce qui était humain était marqué de rouge et de jaune. Donc c'est un peu comme dans la Chine, la couleur de l'or, de l'homme, c'est la splendeur du jaune et de l'orange. C'est pas le marron de la terre dans lequel on retrouve les ossements.
Et quelle odeur ?
Quelle odeur ? Je pense la bruyère mouillée, je sais pas pourquoi.
Paradis perdu d'Éric Emmanuel Schmitt, c'est le premier volume de La traversée des temps chez Albin Michel. Que peuvent les mots face aux régimes les plus autoritaires ? Eh bien, réponse dans La nuit des orateurs qui vient donc de paraître aux éditions Gallimard. Alors, changement de décor, nous sommes à Rome en l'an 93, sous le règne de l'empereur Domitien. C'est un tyran qui prend plaisir à égorger comme on éternue, qui voit des complots absolument partout. Deux hommes dont l'histoire a garné le nom, sont accusés de complot. Ce sont deux grands orateurs, deux grands écrivains, Pline, le jeune, et Tacite. Eh bien, ils risquent la mort, tous les deux, pour avoir plaidé contre un proche de l'empereur convaincu de corruption. Et dans la nuit romaine, la femme de Tacite se rend chez l'empereur afin d'essayer d'obtenir la grâce de son mari. Alors c'est toute une époque qui prend vie sous nos yeux, et dit Cadour, c'est une réflexion que je trouve passionnante sur le pouvoir, la cour, mais aussi les lâchetés, et puis peut-être la parole et l'écriture que vous placez au cœur de ce roman. On va commencer par cette époque, si vous voulez bien, l'Antiquité romaine. Quelle est l'ambiance en 93, après Jésus-Christ, sous le règne de Domitien, dans l'Empire et à Rome ?
Alors il faut rectifier ce que disent Tacite et Pline de Domitien, parce qu'ils en ont dit pique-pendre, d'une part, mais ils ont fait, sous son règne, des carrières de tout à fait haut de gamme.
C'est-à-dire qu'il faut prendre avec des pincettes les témoins directs quand on vit sous le règne d'un tyran.
Du moins, il faut apprendre à faire à la fois une balance entre les écrits, les traces archéologiques, la numismatique, etc. Mm. Et l'archéologie, par exemple, et la numismatique, nous parlent d'un grand règne. Quand on retrouve des deniers à l'effigie de Domitien de Cologne à Meknès ou à l'est du bassin méditerranéen, ça veut dire qu'au minimum que l'époque a été une époque de grande circulation, assez prospère, etc.
On se souvient sans doute de Néron, le tyran cruel, celui qui met le feu à Rome et qui joue de la lyre en regardant Rome flamber. On se souvient de Caligula, le fou, celui qui nomme son cheval sénateur.
Il est pas fou, simplement il est pris dans le conflit qui est celui de l'Empire romain en général depuis César et Auguste. C'est le conflit entre le Sénat et l'empereur. Il y a deux pouvoirs, là, qui ont du mal, au fond, à trouver un point d'équilibre. Alors, tantôt, l'empereur fait une fournée, comme on dirait aujourd'hui, de sénateurs.
Une purge.
Une purge, 10, 20, 30, et il est tranquille pour un moment. Tantôt, c'est le Sénat qui arrive à reprendre un peu de pouvoir. Les provinces de l'Empire sont partagées entre les provinces impériales et les provinces sénatoriales. Donc, on a quand même des équilibres de gestion et d'administration.
Mais comment vit-on ? Page 166, par exemple, vous posez la question suivante. Qu'est-ce que c'est que ce règne où chacun se croit à tout moment en danger de mort ?
Oui, parce qu'il y a la toute-puissance de l'empereur. Effectivement.
Qui égorge comme on éternue, écrivez-vous.
Oui, c'est une formule de Tacite à un moment donné, oui.
Vous semblez remettre un tout petit peu d'humanité chez ce Domitien qui aimait bien contempler tout de même les crucifixions après un bon déjeuner.
C'est l'occupation du Romain en général. Hein, Domitien n'est pas plus. C'est le Romain déjeune relativement tard, vers 2h de l'après-midi, on va à l'amphithéâtre. Et là, avant les jeux proprement dit, du cirque, avant les gladiateurs, on commence par quelques crucifixions, effectivement.
Dites-moi, il ira à Rome, votre personnage, Noam, dans une vie future ?
Oui,
vous avez la base documentaire, là.
ce livre. Et il y a les plus belles pages sur... Parce qu'on ne sait pas que les Romains lisaient les textes de littérature comme on essaye de le refaire aujourd'hui, pratiquer la lecture à voix haute. Et il y a un chapitre absolument magnifique.
La lecture publique.
Oui. Où il y a une lecture publique de Pétrone. Alors moi, c'est un auteur que j'adore. Oui. Et il y a les pages les plus intéressantes que j'ai jamais lues sur Pétrone.
Oui, j'ai...
C'est ça qui est formidable avec votre roman, Eddie Cadour, c'est que vous nous donnez une envie folle d'aller faire un tour du côté de nos classiques romains qu'on a soit pas lus, faut le dire, soit totalement oubliés. Là, le tout petit dialogue des orateurs de Tacite.
Oui.
C'est formidable. Publié aux éditions Sillage. Et il y a le Satyricon également de Pétrone en poche chez Libretto. Quelle incroyable effervescence culturelle sous le règne d'un tyran, tout de même. Pline le Jeune, Martial,
oui, c'est un des grands,
Juvénal, Pétrone, Plutarque, avec quand même beaucoup d'auteurs portés sur la gaudriole, voire la gauloiserie, quand ce n'est pas tout à fait la pornographie tout de même.
Mais les tyrans et les dictateurs, c'est toujours bon pour les arts, malheureusement.
Oui, donc...
C'est-à-dire ça crée la nécessité de trouver des codes, de trouver le moyen de s'exprimer, etc. Malheureusement, c'est toujours des périodes d'efflorescence artistique que les tyrannies.
Mais en gros, c'est le deuxième âge d'or de la littérature latine. On a un premier âge d'or disons, sur un demi-siècle entre Cicéron et Auguste, hein, au début de notre ère, à proprement parler, là, la charnière, et puis à la fin du siècle. C'est une grande période de la littérature latine.
Pour quelles raisons ces écrivains, Pline le Jeune et Tacite qui ne sait pas encore, hein, qui va devenir le grand historien de l'Antiquité, celui dont Racine disait c'est le plus grand peintre de l'Antiquité, mais pour quelles raisons Pline le Jeune et Tacite risquent-ils la mort?
Alors ils ont plaidé, enfin Pline le Jeune, en compagnie d'un autre sénateur avocat, a plaidé la cause d'une province, qui est la Bétique, en gros l'Andalousie actuelle, qui avait à sa tête un gouverneur prévaricateur. Alors tous les gouverneurs étaient prévaricateurs, mais celui-là était vraiment, disons, exagéré dans le genre.
La corruption, c'était vraiment voilà. Sa manière de vivre et de faire.
Or, c'est un intime de l'empereur. Et Pline et Sénéchio, donc l'autre avocat, réussissent à gagner devant le Sénat, les procès se plaidaient devant le Sénat, ils gagnent. Et puis Sénéchio, le collègue de Pline, lui dit « Maintenant, il faut exiger que les biens de ce bonhomme, qui s'appelle Baebius Massa, il faut exiger qu'ils soient mis sous séquestre, parce que sinon, ils vont s'évaporer. » Et à ce moment-là, Pline et Tacite derrière lui disent « Attention !» parce que les biens, le séquestre, là, ça touche directement à la fortune de l'empereur, et c'est là qu'ils lui disent, attention, celui-là, il tue comme on éternue. Mais Sénéchio s'obstine, finit à un moment donné par renoncer, et puis ensuite publie un petit ouvrage qui est aux allures de pamphlet, qui va lui valoir, à ce moment-là, la colère meurtrière de l'empereur.
Est-ce que les mots sauvent ou est-ce que les mots condamnent, sous le règne d'un tyran comme celui-ci ?
Il faut faire très attention. Faire très attention parce qu'en plus, même si vous ne les prononcez pas, il y a toujours de ce qu'on appelle des délateurs.
Alors ça, c'est génial.
Pour aller
vous raconter,
pique-pendre.
Oui, parce que... Mais alors, le délateur, c'est vraiment...
Ah, c'est une fonction.
C'est une fonction.
C'est une fonction. Puisque vous n'avez pas d'accusateur public. Le procureur n'existe pas dans le système juridique romain. Donc, vous n'avez personne pour porter l'accusation publique dans l'institution. Et donc, ce sont des délateurs... Des gens qui s'investissent de cette fonction, qui se chargent de la chose, qui vont vous dénoncer en se payant, si vous êtes condamné, en se payant sur la bête, en récupérant un tiers, la moitié ou un peu plus des biens qui vous seront confisqués.
Et il y a une scène absolument glaçante, hein, quand arrive le délateur chez Tacite et qui commence à regarder le mobilier, et où Tacite se dit là, cette fois-ci...
Il est en train de faire une évaluation.
Voilà, c'est ça. Quel est le rôle, Eddie Cadour, des femmes à cette époque, et tout particulièrement de celle-ci, Lucrezia, la femme de Tacite, qu'il a épousée alors qu'elle avait 12 ans.
Oui, 12-13 ans. Oui.
Et donc, très vite, il dit, en fait, je n'ai pas vu grandir. Je n'ai pas vu cet enfant devenir la femme qui, ce soir, est capable, par ses mots, puisqu'elle va plaider la cause de Tacite devant l'empereur, capable, peut-être, de me sauver la vie.
Ah oui, il découvre qu'il s'en est pas rendu compte. Il a épousé une femme enfant, à 12-13 ans. Et puis, un soir, il se rend compte soudain qu'il a en face de lui une femme qui a du pouvoir, du sens politique, de la réflexion, le goût de l'action, et qu'elle décide d'aller effectivement plaider la cause auprès de l'empereur. Et il se dit, mais quand a-t-elle grandi? Alors c'est ça qui est... Il se demande quand... Il essaie de retrouver le moment où il pourrait se dire, ce jour-là, elle a grandi. Et il n'arrive pas à retrouver le jour où elle a grandi. Mmh. Elle est passée pour lui directement de la femme-enfant à cette matrone romaine qui a un pouvoir réel.
Mais alors, vous y allez très fort, parce que la phrase prononcée, c'est « reste à la maison ». D'habitude, c'est l'homme qui dit ça.
Oui, c'est ça, il faut que tu restes à la maison.
C'est la femme de Tacite qui lui dit « non, reste à la maison, je m'occupe du reste ».
Oui, il lui dit « il faut que tu restes à la maison, parce que si tu y vas, de toute façon, tu vas y passer, donc...
Est-ce que c'est une revalorisation également du rôle de la femme sous l'Antiquité? On nous a présenté Messaline, on nous a présenté Agrippine, on nous a présenté des femmes, Flavie également, c'est-à-dire des femmes qui sont des maîtresses-femmes, mais très portées sur une sexualité débauchée, qui assassinaient leurs époux, trompaient leurs amants, cherchaient le pouvoir. Et vous nous montrez au contraire une femme qui est une femme de tête, réfléchie, qui travaille dans l'ombre, qui n'a rien de commun avec ces femmes romaines que la littérature a popularisées.
Oui, parce que ce type de personnage n'avait pas été traité, effectivement. Il a existé, puisque, en même temps, il faut bien voir que les femmes avaient un statut, disons, effectivement, secondaire, hein, dans la société, sauf quand elles étaient, en même temps, filles de grands personnages. Et là, quand vous appartenez à une grande famille, vous êtes autre chose qu'un personnage de statut de second ordre.
Alors elle dit une chose à un moment, voilà notre laideur, nous avons inventé une raison, une cause légitime à la tyrannie.
Oui, parce que l'Empire romain est d'une telle ampleur que seul un pouvoir de ce type-là est capable de le faire tenir. Au fond, l'Empire romain vient de l'extension même de la Respublica en
C'est-à-dire
Imperium.
Qu'il est trop vaste, il est impossible à réguler.
Vous ne pouvez plus le gérer depuis le forum, depuis les rostres, avec des discours à la tribune ou depuis la curie. Voilà. C'est quelque chose qui est désormais trop vaste pour pouvoir être géré autrement que par un pouvoir unique avec la garantie d'être obéi.
C'est un livre politique qui me rappelle le roman d'Éric Emmanuel Schmid.
Oui, parce que là, on rejoint Rousseau, encore une fois.
Oui.
Rousseau disait que plus un pays est vaste, plus il est condamné à un régime autoritaire, et qu'il faut un tout petit pays, par exemple, comme la Suisse et ses cantons,
voilà.
pour arriver à une démocratie directe.
Le canton d'Appenzell, on peut le gérer en démocratie directe. Voilà. Sinon...
Vous écrivez « Le signe de la décadence de Rome n'est pas seulement que le règne soit en décadence, mais que les adversaires du règne soient pires que le règne lui-même, qu'ils veuillent imiter d'anciennes figures de la République et qu'il n'en soit que la caricature. Ce qui ne serait encore pas trop grave. Le plus grave, c'est que ces caricatures de républicains contaminent et salissent les anciennes figures qu'ils célèbrent.
Oui, c'est-à-dire que dans un régime détérioré, au fond, même l'opposition est détériorée.
Mais vous me parlez de la Rome antique ou d'aujourd'hui, là ?
En même temps, on peut faire des analogies si on veut. Mais moi, je m'en suis tenu, si on voulait, à cette période-là.
Nous, on peut le faire si on veut, mais est-ce que vous le vouliez ?
Non.
Pas du tout. Ça m'étonne, moi aussi. Hein ? Ça m'étonne parce qu'il y a une phrase sur le complot. Il est quand même beaucoup question de la place du citoyen par rapport au pouvoir, et en particulier avec le complot.
Oui.
On a l'impression que, en tant que citoyen, que l'on complote ou pas, que l'on s'auto-thèse ou que l'on veuille s'opposer au pouvoir, de toute façon, on risque sa vie. Oui. Donc, peut-être autant affronter le pouvoir et autant s'exprimer. Et vous dites, l'empereur avait tellement peur du complot que ça inquiétait les citoyens qui se mettaient à comploter.
Oui. Exactement.
Mmh. C'est-à-dire que, ça très actuel.
Oui, à ce moment-là, on n'a plus les catégories sont complètement déstabilisées.
Non, mais vous racontez la naissance aussi de ce complotisme auquel on assiste actuellement, son mécanisme en tout cas. Penser, c'est comploter, hein, dit Domitien à un moment.
Oui, et puis on a peur surtout, on peut avoir peur par exemple des révoltes de généraux, une descente de légions, des gens qui viendraient des bords du Rhin, comme ça se fait. À partir d'un certain moment, le pouvoir, depuis César au fond, le pouvoir se prend. On quitte la Gaule et on rentre dans Rome et on prend le pouvoir. C'est un peu le... L'acte de naissance de l'Empire, c'est un coup d'État mené par un général et ses légions.
Votre roman pose cette question. Que faire ? Qu'est-ce que l'héroïsme en réalité ? Est-ce que le héros, Eddie Kadour, est celui qui justement va prendre les armes, se débarrasser du tyran ? Est-ce que c'est celui qui est prudent ? Est-ce que c'est celui ou celle qui sait employer les bons mots pour convaincre ? Qu'est-ce qu'un héros ? Qu'est-ce que l'héroïsme ?
Oui, à ce moment-là, peut-être que le héros, ce serait celui qui... ça, c'est la pensée d'un des personnages, hein, à l'intérieur du roman. Ce serait celui qui mènerait à bien ses tâches sans essayer de se faire repérer ou de se mettre en état de sacrifice.
La question de Gênes et Baudet, quelle couleur, quelle odeur pour cette époque ?
Alors, c'était sans doute un royaume, enfin, un univers des senteurs, hein, puisque à un moment donné, je fais même passer par la Via Subura, hein, qui est un...
Ça sent pas la rose, on va
voilà,
dire.
Il y a du mur.
Qui est un endroit qui ne sent pas la rose, hein, puisqu'il y a la Cloaca Maxima, en même temps, le grand cloaque à cet endroit-là. Le Tibre lui-même ne devait pas sentir particulièrement bon, surtout en été. Donc, on avait quand même un monde d'odeur beaucoup plus forte à l'époque que ce que nous connaissons, disons, en Europe, dans les capitales de l'Europe.
La nuit des orateurs, dédicat d'Ourst aux éditions Gallimard. Je vous propose une parenthèse du côté des librairies indépendantes, avant de repartir du côté des... Ah là là, du mal, précisément, avec Jennifer Richard. Et puis, on va beaucoup parler de ce fameux blanchiment de l'armée française avec Eugène et Baudet. Mais avant cela, cap sur Tassin la demi-lune. Tiens, c'est près de Lyon, à quelques kilomètres de l'endroit où vous êtes né. Vous connaissez ?
Oui, bien sûr.
Ah oui ? Ouais. Est-ce que vous connaissez Marissa Bogossian ?
Non.
Eh ben, vous allez découvrir. Elle a créé la librairie Pleine Lune à Tassin, justement. Vous allez voir, son énergie est tout simplement contagieuse. Son portrait est signé Inès de la Motte Saint-Pierre. Regardez bien ce qu'on y trouve dans sa librairie, sa belle librairie.
Lire, c'est une machine à remonter le temps, à être dans le temps et à dépasser le temps. Je suis d'origine arménienne et effectivement, j'ai grandi entourée de conteurs, de gens, de personnalités qui me racontaient le quotidien avec plein de petits détails et plein de magie. C'est le moment idéal de prendre les livres. Allez-y, lisez, respirez, chargez-vous d'émotions, de rencontres, d'histoires. Vous allez être bluffé. Ma bande originale, c'est « L'hiver du mécontentement » de Thomas Reverdy. On est en Angleterre, à Londres, en l'hiver 1978-1979. Il va y avoir les grandes grèves, l'arrivée de Thatcher au pouvoir. On écoute du Sex Pistols, on écoute Siouxsie and the Banshees, Joy Division. À chaque chapitre, on a envie de plonger sur la platine, d'écouter le morceau et après, on se remet dans la lecture. C'est génial. Pour moi, le livre inclassable, c'est « Je ne reverrai plus le monde » d'Ahmet Altan. C'est un livre courageux et poignant d'un écrivain, journaliste, essayiste turc qui a été arrêté lors du putsch contre Erdogan il y a quelques années. Il y a tout dans ces textes de prison. Il y a de la poésie, de l'humour, de la philosophie, de la rage, de l'espoir. On est complètement en empathie avec lui. On est au fin fond de la cellule. Ce sont des textes magnifiques. Le livre à lire à voix haute, c'est Zone de Mathias Hénard. Il n'y a pas de ponctuation. Comment est-ce qu'on fait pour respirer? Comment est-ce qu'on fait pour placer sa voix? Et comment on s'arrête? Comment on gère? C'est un super exercice. Le livre qui m'a fait pleurer, c'est Gioconda de Nikos Kokantzis. C'est l'histoire de Nikos, l'auteur, qui est amoureux de sa petite voisine, une jeune fille juive. Ils sont voisins. Ils se connaissent depuis toujours. C'est l'amour profond, l'amour absolu et en même temps l'histoire noire de l'Europe et de la déportation. Nikos a porté ce livre pendant 30 ans avant de l'écrire. C'est le livre d'un homme, c'est le livre d'une vie.
Voilà, toujours l'histoire racontée par les romanciers en compagnie d'Éric Emmanuel Schmitt, Eddy Cadou, Eugène et Baudet et Jennifer Richard. Voici les mémoires, dites-moi, d'un individu, alors je vous préviens, détestable. Ah, on parlait du mal. Le plus grand marchand de mort des temps modernes, a dit de lui Romain Gary. Basile Zaharoff fut marchand d'armes, magnat de la presse, de la finance, du pétrole. Il a pesé sur la destinée du XXe siècle dans l'ombre, en vendant des armes à tous les pays en guerre. C'est un personnage absolument odieux. Voilà, il est cupide, cynique, raciste, ne recule devant rien pour accroître son immense fortune. Il n'a, dit-il, jamais rien regretté, se disant même prêt à finir chez le diable qui parle toutes les langues. Le diable parle toutes les langues, c'est le titre de ce roman qui est formidablement documenté, Jennifer Richard, qui retrace alors à la fois le rôle de l'argent et de la guerre au XXe siècle et puis la vie de ce Basile Zaharoff. Vous commencez par un fait divers qui nous captive et pourtant Dieu sait qu'on n'a pas envie de lire les mémoires de ce salopard. Mais pourtant vous nous dites qu'ils ont existé. On prétend que ces mémoires auraient été volées, mémoires qu'auraient fait sans doute trembler tous les gouvernements de la planète, puisqu'ils comportaient des révélations très compromettantes. Vous les avez un peu réécrits, finalement.
J'ai écrit des mémoires dont on a dit qu'en effet, elles avaient fait trembler tous les puissants de la planète. Comme je me suis approprié certaines légendes qui avaient été émises à l'époque sur ce personnage, et comme je vous disais, je ne l'ai pas choisi parce qu'il a eu cette vie picaresque, il a été partout, il a beaucoup voyagé, il était époustouflant par sa connaissance, son érudition, il parlait 12 langues, il était proche de tous les gouvernements de son temps, et son temps a été long, puisqu'il est mort à 86 ans. Mais je l'ai choisi en dépit de ça, parce que tout ce que vous venez de décrire, la description du personnage que vous venez de faire, pour moi, c'est le marché. Ce personnage m'a permis de décrire le marché.
Et le marché, c'est-à-dire le monde entre, allez, on va dire, la fin des années 1880 et la Deuxième Guerre mondiale.
Le grand marché, c'est-à-dire la spéculation, la haute finance, le capital. Voilà, le mot est lâché, c'était pour moi une façon de décrire le capital. Et il incarne ça parfaitement, c'est-à-dire que on ne parle pas de pays dit capitaliste avec cette personne, on parle du capital qui s'infiltre partout, qui s'infiltre géographiquement dans tous les pays, qui doit aller chercher des marchés de plus en plus lointains et qui doit prospecter en permanence, qui doit avoir des idées pour aller chercher des marchés qui n'existent pas encore.
Est-ce que vous voulez dire que cet homme qui va faire fortune en popularisant la mitrailleuse, par exemple, n'aurait pas pu être ce marchand de mort s'il n'y avait pas eu les États qui décident de la colonisation, s'il n'y avait pas eu le soutien à des guerres locales pour précisément empêcher le voisin d'exister et d'étendre son empire ?
Exactement. Ce personnage, en fait, pour tout vous dire, quand j'ai découvert ce personnage, j'étais en train d'écrire la suite de mon roman précédent. Il tatoue ce beau pays sur la colonisation, l'instauration de la ségrégation aux États-Unis, l'accélération de l'industrialisation en Europe. Et je me suis dit, il faut que je précise mon propos. Parce qu'en fait, je ne parlais pas de la colonisation, je parlais du marché. Et là, Basil Zaharoff incarne ça. Et je découvre, dans mes recherches, avec la suite, je découvre, en faisant des recherches sur Léopold II, qu'un personnage a acheté pour sa maîtresse la villa que Léopold II avait offerte à sa maîtresse.
Alors Léopold II, pour rappeler, c'est le roi des Belges.
Le roi des Belges.
Et c'est aussi celui qui a envoyé Stanley, pendant très longtemps,
au Congo.
Colonisé.
Qui a envoyé Stanley circonscrire son territoire congolais. Et grâce à l'argent du Congo, Léopold II a pu s'acheter un château absolument magnifique au nord de Paris. Et je découvre qu'en 1915, Basil Zaharoff rachète ce château pour sa maîtresse. En 1915, c'est-à-dire qu'ils sont très rares les hommes qui, en 1915, peuvent s'acheter un château.
En pleine Première Guerre.
En pleine guerre, les hommes sont en train de mourir par millions et cet homme s'achète un château. Et je me suis dit, il faut absolument que je creuse cette personne, la personnalité de ce salaud, comme vous dites. Et là, je découvre qu'en effet, Basil Zaharoff s'est accoquiné avec tous les régimes. C'est-à-dire qu'il a à la fois fait des affaires avec un des instigateurs de la Révolution russe et à la fois avec les nazis. C'est ça, c'est quelqu'un qui tisse sa toile géographiquement et spatialement. Et Eric Emmanuel Schmitt a une formule qui m'a beaucoup plu dans le livre. Il y a l'utopie. Vous parlez de l'utopie mélancolique et l'utopie prospective, oui. La tradition face au progrès. Et Basil Zaharoff est passionné par le progrès. Et le progrès, c'est ce qui crée des nouveaux marchés pour l'avenir. Et c'est très important pour lui.
Le système Zaharoff, hein, expliquez-vous, consiste précisément à être capable de vendre à deux pays ennemis le même armement. Alors, il va vendre des sous-marins à l'époque où les sous-marins coulent. À la Grèce, mais enfin, il va aussi les vendre à la Turquie.
Immédiatement.
C'est ça qui vous semble être l'incarnation du marché du capitalisme au XXe siècle ?
Oui, c'est-à-dire que...
Cette capacité de jouer sur les deux tableaux...
On fait fi de tout. On fait fi de tout. Évidemment, il n'y a pas de loyauté. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais on fait fi des hommes et on fait fi de la nature. Et c'est ça vraiment qui me choque. Moi, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. C'est la façon dont on cohabite avec le vivant. Et ces personnes-là sont totalement indifférentes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens maléfiques. C'est pas tellement un salaud, malheureusement.
C'est pas un salaud.
Je pense que c'est quelqu'un d'indifférent, comme beaucoup. C'est quelqu'un qui ne veut pas mourir. Ce sont des gens qui accumulent, et qui ne veulent pas mourir, et qui se retrouvent en fin de vie avec un amas d'or et d'argent, et qui ont vendu du fer, et qui ont vendu des tas de choses. Il a vendu beaucoup de choses différentes, et qui ne veulent pas tout lâcher. Au moment de la mort, au moment de faire ce grand saut dans l'inconnu, voilà, il y a tout ça qui les retient.
Et on vous sent à la fois... dans le roman, totalement agacé par votre sujet qui est le marché et fasciné par cet homme qui ne recule devant rien, sans jugement moral. Pas là pour mettre de la moraline, c'est un roman. Mais qu'est-ce que vous faites pendant des mois à travailler avec un personnage pareil ? Dans quel état en sortez-vous ?
J'en sors dans un état à peu près rassurant puisque je l'accompagne jusqu'à la mort. Oui. Et ça, c'est une petite vengeance personnelle, puisque je...
Ah bah oui, vous avez quand même envie de vous venger.
Oui, je me venge de mes personnages.
Pour me rassurer.
Ah, oui. En effet, mais cette personne, en fait, me permet de me venger de notre passivité, parfois, et de la façon dont nous, masse de peuples, masse de citoyens, on subit les choses. On est docile, on est gentil, et on subit les...
Est-ce qu'on subit ou est-ce que nous sommes complices? C'est la question que je me suis posée en vous lisant et qui est au cœur aussi de votre roman, Eddie Cadour, sur le pouvoir, à beaucoup de reprises. Vous évoquez cet asservissement, pour reprendre votre expression de tout à l'heure, Eric, cet asservissement, cette servitude volontaire dans laquelle on rentre, parce que bah, finalement, on se dit qu'on ne peut rien faire. On laisse faire, écrivez-vous à un moment. Est-ce que ceux qui ont laissé faire sont complices de tous les Basile Zaharoff?
On est forcément responsable en tant que citoyen. À partir du moment où on est libre, on est responsable. Un esclave n'est responsable de rien. Mais quand on est un homme libre, quand on est un citoyen dans une cité, on doit être responsable et on doit en avoir conscience. Parfois, on n'a pas le choix. Et quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est cette boucherie de 14-18. Mmh. Là, on envoie des hommes par millions se faire tuer. Eux n'ont pas le choix. Donc, il y a cette compassion que j'ai pour la masse des hommes qui meurent pour le pouvoir, sans le savoir. Et puis notre complicité, parce qu'on laisse ces hommes partir. Et parfois, on les encourage à partir. Parce que la propagande d'État veut qu'on soit convaincu soi-même du bien fondé des guerres, quelles qu'elles soient. On est toujours, de toute façon, convaincu que notre camp est le bon, sans savoir qu'en face, enfin, sans prendre conscience qu'en face, c'est pareil. Ils partent en guerre pour la même chose.
Eddie Cadour.
Oui. Moi, j'ai vécu quelque chose au Maroc en 71 qui m'a fait comprendre, au fond, l'été 14. J'ai vu au moment de la marche verte déclenchée par le roi, j'ai vu justement une ville entière, j'habitais Meknès, j'ai vu une ville entière entrer en fusion pour aller conquérir le Sahara, au besoin écraser les Algériens, etc. Et j'ai vu, le premier rang du cortège, je le voyais d'un immeuble où je m'étais installé, et le premier rang du cortège, il y avait à la fois le gouverneur et les prostituées de la rue adjacente. Voyez, et tout le monde, au coude à coude, s'avançait comme ça dans cette espèce de fusion qui fut celle de 14, où les gens sont allés, effectivement, les uns à Berlin, les autres à Paris, où ça a donné 4 ans de...
Fleur au fusil. La fleur au fusil.
Ce qu'on a appelé la fleur au fusil, oui. Oui, ce qu'on a appelé la fleur au
fusil. Et tout ça pour rien, surtout.
Et en même temps, tout ça pour rien. Et puis pour
des questions
pour
qui,
des
évidemment,
catastrophes ultérieures.
Ce sont des questions qui, évidemment, Basile Zaharoff ne se pose pas, refuse de se poser. Il va même très loin dans sa propre défense, puisqu'à un moment, vous lui faites dire, Jennifer Richard, qu'en réalité, lui, il n'a pas employé ses armes, il n'a fait que les vendre. En gros, je ne suis responsable ni coupable de rien. C'est pas moi qui tue.
Oui, je me déresponsabilise, je m'en lave les mains. Et c'est là qu'on intervient en tant que citoyen, qu'on doit être attentif aux discours, à tous les discours de l'actualité, à ce qu'on veut nous faire croire, ce qu'on veut nous faire passer pour le bien. Et moi, je suis toujours très méfiante de ça.
L'essentialisation du bien, ce qu'on fait, prétend être le bien.
Voilà, on est toujours dans... C'est des proches qui disaient « l'ennemi est bête, il croit que c'est nous l'ennemi ». Et je trouve que tout est là, tout est dans cette phrase.
Éric Emmanuel.
Et moi, j'ai trouvé très, très intéressant votre livre parce qu'il montre que finalement, c'est ordinaire d'être un salaud. Il y a ce qu'on appelle la banalité du mal, hein, ce qu'Anna Arendt appelait la banalité du mal. Et en même temps, vous montrez qu'on ne peut pas résumer quelqu'un à un salaud. C'est-à-dire qu'il y a des lignes de fuite qui sont comme des lignes de lumière dans cet affreux bonhomme, qui est le fait qu'il va aimer vraiment profondément une femme et que sa fille préférée, c'est la personne qui est le contraire de lui. Et qu'il ne la prend pas comme un tribunal qu'il veut convaincre, mais il a besoin de cohabiter avec quelqu'un de lumineux et de bon. Donc je trouve que, tout en définissant clairement les enjeux, vous montrez la complexité humaine.
Ça serait facile et tellement, tellement pratique si les méchants étaient des vrais méchants jusqu'au bout. Et dans ce cas-là, s'ils étaient... L'essence du mal, après leur mort, tout irait mieux, en principe.
Alors, vous tournez tous autour de cette question. Qu'est-ce que c'est le mal? Est-ce que c'est un tyran comme Domitien, qui tue comme on éternue? Est-ce que c'est un homme qui, comme le père de votre personnage, croit au départ protéger sa communauté avant de vouloir en être le totem? Est-ce que c'est, au contraire, quelqu'un qui n'agit que pour son intérêt et sa fortune? Qu'est-ce que c'est?
Moi, je pense que ça tient beaucoup dans l'indifférence. Et que peu de gens sont vraiment maléfiques, en vérité. Et malheureusement, le mal se situe peut-être dans le cynisme, le fait d'observer les choses et de faire passer un intérêt. Mais le vrai mal,
Moi, je suis très platonicien là-dessus. C'est-à-dire, je crois que personne ne souhaite le mal, mais tout le monde souhaite son bien. Mmh. C'est-à-dire que les gens veulent faire ce qui est bien pour eux ou ce qui est bon pour eux, comme disait Nietzsche. Et donc, pour moi, la racine du mal, c'est vraiment l'égoïsme. Je crois que tout revient à ça.
Vous posez la question suivante. Qu'est-ce que la punition ? Page 316, par exemple. Et vous dites, la punition, c'est peut-être la lucidité. Pas la voix de la conscience, mais la lucidité. Tiens, est-ce que ce ne serait pas effectivement ça, le pire qui puisse nous arriver ? Pas une condamnation morale, mais simplement être face à ce que l'on a fait.
J'ose espérer qu'il y a une justice à un moment. Je suis assez pessimiste, j'y crois pas tellement, et je me dis, malgré une prise de conscience, on peut continuer à aller droit dans le mur, je pense que c'est ce qu'on fait. Et avec Basile Zaharoff, je lui prête cette lucidité à la fin de sa vie. C'est sa troisième crise existentielle, parce qu'il a eu... je lui donne une crise existentielle devant Cyrano de Bergerac.
Ah oui.
Qui lui procure une émotion humaine.
Oui, mais alors il va falloir que vous m'expliquiez quelque chose quand même. Moi, je veux bien que le mal, on ne soit pas sûr, etc. Bon, expliquez-moi comment un homme capable de pleurer, bon, comme tout le monde, devant ce chef-d'œuvre absolu, Cyrano de Bergerac, se comporte comme Rastignac plus Raskolnikov. Parce que c'est un petit peu ça, tout de même.
Est-ce que ça vous semble si incroyable que ça ? Moi, ça me semble assez logique. Justement, il est tiraillé entre plusieurs émotions, mais comme nous tous. Et je pense qu'il n'a pas saisi l'appel. Basile Zaharoff a dû, comme tous les hommes érudits, avoir la chance d'aller au théâtre, de lire des grands romans. Et devant Cyrano de Bergerac, il découvre la beauté de la création humaine. Il préfère ignorer cet appel. Il a une deuxième crise existentielle dans le désert algérien. Et là, il est face à Dieu.
Mais ce n'est pas sa nuit de feu, hein, cette fois-ci.
Non.
Il a l'inverse, pas répondu. En fait. Oui.
Mmh. Exactement. Basile Zaharoff a refusé ça. Mais il est face au vide. C'est ça, le désert. Oui. C'est qu'on est face au vide. Tout
qu'est-ce
d'un
qui... Attendez, j'aimerais qu'on creuse un peu. Il a refusé ça, écrivez-vous. Et c'est vrai que la scène est saisissante. On a le sentiment que de toutes ses forces, tout ce qui peut l'amener du côté de la beauté, tout ce qui peut le ramener du côté de l'humanité, il le tient à distance, sachant qu'il serait peut-être moins riche.
Ça serait gratuit. Quel intérêt pour un homme comme ça ? La gratuité, la beauté de la nature est absolument gratuite et elle est disponible pour tous, ce qui fait que devant elle, les hommes sont égaux. Ça n'a aucun intérêt pour un homme comme ça. Un homme qui veut être immortel, qui croit qu'il est immortel, qui veut tout posséder, qui veut être supérieur aux autres, qui se pense l'aristocrate de la planète. Donc, la beauté de la nature, ça n'a aucun intérêt.
Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui refusent les révélations, pas seulement les grands salauds. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous l'occasion de... Oui, la révélation de Cyrano de Bergerac, la révélation d'une belle musique, la révélation de la beauté de la nature ou de la présence de Dieu, enfin bref. Mais une révélation, c'est toujours une révolution. C'est-à-dire, c'est toujours une remise en question. Il faut arrêter de penser comme avant. Il faut tout d'un coup ouvrir des portes dans son esprit. Et lui, il n'en ouvre plus.
Non, il ne veut plus. Ça n'a pas d'intérêt, vraiment, au sens propre.
Il n'en ouvre plus tellement qu'à un moment, c'est aussi un livre qui a des côtés drôles. À un moment, il est en train de fêter son anniversaire. Il est maintenant sur un fauteuil roulant. Ce n'est plus le type triomphant et qui peut se déplacer comme il veut, qui voyage dans ce récit picaresque que tu évoquais. Et il a une invitation à aller partager le gâteau, à aller souffler. Il refuse de souffler les bougies. Ça le fatigue. Et puis à un moment, il y a l'une de ses filles qui lui dit... regarde, tu es rentré dans l'histoire. Elle ouvre un exemplaire de Tintin et il figure dans les aventures de Tintin. Et il est énervé de voir que son nom a été orthographié différemment.
Il est très agacé parce qu'il n'a pas une silhouette très flatteuse, en effet.
Oui. Enfin, en même temps, la silhouette d'Hergé est assez réussie parce que si on peut voir la photo qui a inspiré Hergé et la case d'Hergé, c'est assez saisissant. En réalité, Basile Zaharoff, qui devient Basile Bazarov chez Hergé, est déjà présent. Hein. On voit aussi la puissance de cette littérature de l'époque et un Hergé qui, j'aurais bien aimé tiens, qu'il soit juste à côté de vous, on lui aurait demandé comment et pourquoi il avait mis le marchand de mort des temps modernes dans l'une des aventures de Tintin.
C'est très politique, Tintin.
Bah oui.
Quand on le lit passer un certain âge, on comprend que la plupart de ces événements sont inspirés de la réalité. Et Basile Zaharoff a fait beaucoup couler d'encre dans les années 30. Donc la parution du 20e illustré avec Basile Zaharoff date de 1935. c'est-à-dire un an avant la mort de Basile Zaroff. Donc, en effet, il a pu voir son portrait dans une planche d'Hergé.
Et le Basile Zaroff qui vend aussi bien au général Tapioca, évidemment,
exactement.
Au général Alcazar. La question de Gênes et Baudet, quelle couleur, quelle odeur pour cette époque?
Évidemment, ça sent le fer, c'est-à-dire ça sent à la fois les munitions et le sang des hommes dans les tranchées. Et la couleur, rouge et or.
Le diable parle toutes les langues. Jennifer Richards, allez-y, c'est formidable. Et c'est aux éditions Albin Michel. Avant Eugène et Baudet, qu'on se penche sur le destin incroyable de Madot, j'aimerais qu'on parle, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, de la lecture à voix haute. Mmh. Notre grand concours se poursuit. Nous venons de lancer, tiens, un défi sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle 2 pages de lecture. Alors rendez-vous sur les comptes Facebook et Instagram de la Grande Librairie, et puis de Si on lisait à voix haute pour y participer. Vous vous en souvenez peut-être, il y a tout juste un an, Éric Emmanuel Schmitt avait rendu visite à des élèves de première du lycée Édouard Herriot, chez lui, à Lyon. Et bien cette semaine, c'est Jérôme Ferrari qui s'y colle et qui passe la porte du lycée Fesch à Ajaccio, en Corse, à la rencontre de la classe de seconde 4. Et comme toujours, ce sont les élèves qui se sont filmés eux-mêmes. C'était juste avant les vacances, regardez.
Très bien.
Vous savez que Flaubert, pour te corriger ses textes, il les lisait à haute voix, pour voir si ça allait ou s'il avait des choses à changer.
Quand on travaille un texte à voix haute, on entend des choses et par conséquent, on comprend des choses qu'on n'aurait peut-être pas compris si on se limite à une lecture silencieuse, quoi.
Comme je voudrais avoir une peau dure et cette magnifique couleur d'un vert sombre, si je pouvais faire comme eux, ça n'est pas ça. Essayons encore, plus fort. Non, je n'arrive pas à barrir. Je hurle seulement. Eh bien, tant pis. Je me défendrai contre tout le monde. Ma carabine. Je suis le dernier homme. Je le resterai jusqu'au bout. Je ne capitule pas.
Bravo.
Quel texte facile. On parlait de théâtralité tout à l'heure. Bon, là, c'est du théâtre. Ouais. Donc, mais en même temps, tu lis, tu peux pas jouer, mais il faut ça jouer aussi. C'était
vraiment bravo parce que ta lecture, elle est parfaite.
Et drôle.
On peut survivre à ces choses horribles parce que nous sommes aussi indestructibles que nous pensons l'être. Lorsque les adultes disent, les adolescents se croient invincibles. Ils ne se doutent pas à quel point ils ont raison. Nous pensons être invincibles parce que nous le sommes. Comme l'énergie, nous changeons seulement de forme, de taille et de manière de nous manifester.
Bravo, Juliette.
Vous savez qu'à rien qu'à la manière dont vous lisez un texte à voix haute, votre auditeur sait si vous comprenez ce que vous lisez ou pas.
Ah, dites-moi, il y a de la graine de champion, là, Éric Emmanuel.
L'année dernière, on a été gâtés.
Hein. Ah oui, on vous retrouve dans le jury cette année ?
J'adorerais, ouais.
C'est vrai ?
Ah, oui.
Allez, on prend date.
Ah oui, d'accord.
Le 17 juin, la grande finale de Si on lisait à voix haute, donc ce grand concours de lecture organisé de la 6e à la terminale. Vous êtes plus de 130 000 à vous être inscrits cette année, ce qui, compte tenu des conditions sanitaires, est absolument remarquable. Merci, bravo. Continuez à vous entraîner. On continuera, nous, à vous proposer comme ça des écrivains qui partiront dans les classes et puis aussi des comédiens qui vous donneront des conseils. Et Éric, de retour avec nous parmi les membres du jury. On continue avec les bousculades de l'histoire, Eugène et Baudet. Voici le roman d'une vie, alors quelle vie ? Celle de Madot Petrache, qui fut proche de Picasso, de Dali, de Chagall, de Miro et de tant d'autres grands artistes qui fréquentèrent le pays catalan, et tout particulièrement Céret, où elle vit encore, Madot, née en 1936 au Cameroun, d'un père suédois, d'une mère camerounaise, mais qu'elle n'a pas connue, métisse donc. Elle est élevée au Cameroun juste avant que n'éclate la Deuxième Guerre mondiale. Et on la suit, en escale au Maroc, ovationnant De Gaulle, et puis en exil dans les rues de Perpignan, déracinée en but au racisme, et puis donc à Céret, auprès de son mari Marcel, et sous le regard de Picasso. Brûlant était le regard de Picasso. C'est un roman qui raconte aussi et magistralement les violences du colonialisme et tout particulièrement la façon dont on a blanchi l'armée du général Leclerc lors de la libération de Paris en 1944, armée dans laquelle se trouvaient pourtant de nombreux Noirs africains. On va commencer, Eugène et Baudet, par présenter Madot, avant de revenir à cet épisode peu glorieux de l'histoire française. Alors, qui est Madot ?
Madot, c'est une petite fille qui a 3 ans. Elle vit avec son père depuis 1 an, depuis qu'elle est, c'est vrai, du lait maternel. Son père la récupère pendant qu'il négocie avec la famille de sa maman pour l'épouser. Et les épousailles ne se passent pas très bien. Et là, on la voit avec sa mère adoptive.
Un peu plus tard, donc.
Un peu plus tard, ouais. Parce que son père est allé en Suède en 1939 pour rencontrer ses parents et leur dire qu'il envisage de fonder un foyer mixte. Il hésite, il a peur parce que dans l'entourage des parents, il a un grand-père qui est très rigide. Et le Yosta se doute que la partie ne sera pas facile.
Et le mariage mixte à l'époque, 1939, n'est évidemment ni populaire ni gagné pour des raisons essentiellement religieuses, pense-t-il. Alors on est en 1939, vous l'avez dit, il repart donc en Suède, la guerre éclate et il ne revient pas au Cameroun. Madot est élevée par des amis.
Elle est élevée par
une famille adoptive.
Oui, auquel... son père l'a confié. Ils sont originaires de Perpignan. C'est des Français qui habitent à Edea, une petite commune du Cameroun. Madot vit là avec sa mère adoptive et son père adoptif jusqu'en 40. En 40, le père adoptif s'engage dans l'armée de Leclerc et il se met dans les pas du général de Gaulle et de Leclerc qui est arrivé au Cameroun en octobre 40.
Alors ça, c'est un point sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, Jeanne et Baudet, parce qu'on l'a un petit peu peut-être oublié ou moins raconté. C'est-à-dire qu'on nous parle évidemment de la résistance de Gaulle dès le 18 juin 40. Sauf qu'en août 1940, à Douala, qu'est-ce qui se passe exactement?
Le général, il n'est pas encore général, mais le capitaine Leclerc, qui vient d'avoir un grade de commandant, vient avec... Étier de Bois-Lambert et René Pleven, qui sont mandatés par De Gaulle pour organiser la résistance à partir de ce qu'il appelle l'Empire. Donc ils arrivent à Douala en août.
Mais vous racontez qu'ils sont une poignée d'ailleurs de soldats sans aucun armement, à moitié loqueteux.
Ils sont une vingtaine. Ils sont une vingtaine. Et d'ailleurs, le père adoptif de Madot va les rejoindre pour un coup de force dans la garnison de Douala, qu'ils réussissent à emporter. Et cette petite armée va subir, va avoir des ralliements. Et les ralliements seront essentiellement ce qu'on va appeler les tirailleurs sénégalais, qui vont former près de 60% de cette armée de Leclerc, qui, à partir de Douala, va aussi faire le coup de force au Gabon, à Libreville, où il y a une garnison plus importante, avec un armement plus conséquent.
Et puis ensuite au Tchad, et puis ensuite à Koufra. C'est très important. On se souvient peu du serment de Koufra. Pouvez-vous nous rappeler ce que ces hommes noirs et blancs, qui pendant 2 ans ont affronté les sables de l'Afrique, mais aussi les troupes de Rommel, se sont promis ce jour-là à Koufra?
Koufra est un oasis en Libye. Et cette armée, quand elle gagne Koufra, eh bien, elle prend le serment. C'était près de 8 mois après la défaite. Elle forme une armée soudée et qui prend pour serment d'aller jusqu'à Strasbourg.
Et de ne jamais se séparer.
Oui, de ne pas se séparer pour hisser le drapeau français qui avait été enlevé. Et donc, cette armée qui signe le serment de Koufra, quand elle arrive au Maroc et qu'elle... est reprise par l'armée américaine après son débarquement en Afrique du Nord, eh bien, l'armée du général Bedel, qui la commande, va obliger le général Leclerc, il est devenu général à ce moment-là, de se séparer de ses soldats africains.
La phrase exacte que vous citez, page 102, est la suivante. « Il est hautement désirable que la division, Leclerc, soit composée de personnel blanc. » Mais le mot « désirable », pardonnez-moi, mais j'ai du mal à comprendre le français ou on me l'a mal enseigné. Depuis quand « désirable » est-il un ordre ?
Eh bien, « désirable » a été entendu comme c'est un ordre que nous vous donnons puisque l'armée américaine elle-même subit la discrimination. Et c'est le général Bedell Smith qui interprète de manière plus radicale cette façon un peu édulcorée de dire effectivement qu'on ne veut pas de noirs aux avant-postes.
Est-ce que Leclerc a protesté ?
À ma connaissance, non.
Est-ce que cet abandon est une trahison ?
Pour moi, c'est un manquement au serment de Koufra. C'est une faute.
Peut-on parler, Jeanne Bonnet, d'un blanchiment de l'armée française volontaire en obéissant finalement à des ordres donnés par l'armée américaine, puisque l'ordre vient du haut commandement de Eisenhower en réalité ?
Oui. Oui, elle a souscrit à ce blanchiment.
Vous écrivez...
Puisqu'il n'y a eu qu'un seul soldat noir qui a été, si je puis dire, sauvé de ce désastre, c'est Madame Bassi. Claude Madembassi, c'est le seul qui restera dans cette armée. Et ce n'est que l'année dernière, d'ailleurs, qu'à Paris, on lui a donné le nom d'une impasse, je crois, ou d'une allée.
Dans le 14e arrondissement.
Dans le 14e.
En 2020.
2020. Il a fallu beaucoup de temps, mais il en reste encore pour rappeler cette page sombre, pour rappeler qu'il y a, lorsque la démobilisation a eu lieu, il faut savoir que ces soldats qui ont été démobilisés, certains sont repartis à Dakar. Et en 1945, il y a eu un massacre à Tiaroy.
1er décembre 1944, on est à peine 6 mois après la libération
de Paris.
Paris. Que se passe-t-il exactement à Tiaroy ?
À Tiaroy, ces soldats démobilisés à qui on a fait enlever leurs uniformes au Maroc pour que d'autres puissent les vêtir. Ils sont rentrés chez eux en civil et ils réclamaient simplement leur solde. Et leur solde était repoussé de jour en jour. Paris fermait les yeux ou lanternait. Et ils se sont coalisés et ont marché vers la garnison de Tiaroy à Dakar, à côté de Dakar. Et là, ils ont reçu pour toute solde, si je puis dire, des coups de feu. Et il y a eu beaucoup de morts au cours de cette malheureuse affaire.
Aujourd'hui, quand vous racontez dans un roman qui est un portrait de femme, d'une jeune métisse, son père est blanc, suédois, sa mère est noire, camerounaise, quand vous racontez en toile de fond cet épisode dont on ne veut plus parler et dont on parle très peu en France, qu'est-ce que vous souhaitez montrer, Eugène et Baudet ? Qu'est-ce que vous souhaitez rappeler ?
Je veux rappeler d'abord que Mado est une jeune fille qui a été blessée, abandonnée, plusieurs fois meurtrie quand elle était petite. Et quand elle arrive au croisement de l'histoire, il y a d'autres meurtres ou meurtrissures qu'elle reçoit en supplément. Et que sa mémoire est remplie de beaucoup de zones extrêmement douloureuses.
Elle vient de là, Mado. Elle vient aussi de la trahison du serment de Koufra par la France. Elle vient aussi du blanchiment de l'armée de Leclerc.
Elle vient aussi
du massacre de Tiaroy.
Oui, elle vient de toute cette histoire. C'est quasiment une archive vivante. Et c'est pour cela que j'ai voulu faire son portrait. Elle vit encore et elle est capable de porter elle-même aussi discours de cette mémoire flétrie, meurtrie, abîmée de tous les abandons auxquels elle a assisté. D'abord l'abandon par ses parents, par des conjonctures et des circonstances bien sûr qui n'étaient pas les leurs. Ils ont subi aussi. Mais après, elle a vu un certain nombre de choses qui l'ont meurtri et blessé à nouveau. Je pense que sa mémoire est à la fois imprégnée de toutes ces douleurs et qu'il conviendrait que nous puissions en parler pour essayer d'en extraire une partie du venin qui est encore contenu. Et faut pas, je pense qu'il n'y a pas simplement lieu de déplorer cette mémoire-là. Il faut aussi dire qu'elle a elle-même, elle a une capacité de résilience énorme, puisque auprès des peintres, elle les a aussi aidés à continuer à créer.
C'est la deuxième partie de la vie de Mado.
À se sublimer par l'art.
Voilà. Vous racontez donc ce destin d'une jeune métisse qui arrive à Perpignan, qui va découvrir le froid et le racisme ordinaire également, et puis qui rencontrera Marcel, à peine sorti de l'adolescence, et ce couple absolument génial qu'on a envie de serrer dans ses bras, Marcel et Mado, et qui va devenir comme ça, serré dans les Pyrénées, de l'autre côté de la frontière, il y a l'Espagne, et il y a évidemment l'Espagne franquiste, il va devenir ami de cette autre communauté d'exilés, et j'aimerais qu'on en parle, car à l'exil de Mado, cette Camerounaise qui pense en suédois, en français, et puis en Bamileke aussi, correspond l'exil de Chagall, qui vient de Vilnius, correspond l'exil, allez, de Picasso, qui vient juste en face, et qui regarde, et là, depuis son promontoire, son pays, l'Espagne, et puis l'exil de Dali, et puis celui également de tous ces grands peintres qui vont passer par Céret. Est-ce qu'il y a différentes formes d'exil ?
Oui, il y a des différences de degrés. Quand on pense à l'Espagne, aux républicains, ils souffraient du même exil que Mado, venu de 6000 kilomètres. Ils étaient à côté. Il avait la même nature, mais il avait des degrés différents. Picasso pouvait monter sur les hauteurs de Fonfrède et apercevoir son Espagne. Mado ne pouvait pas le faire. Elle pouvait monter sur aucune montagne.
Avait-elle une
pour
nostalgie
apercevoir le Cameroun.
Avait-elle une nostalgie de ce Cameroun?
Oui, elle l'a gardé longtemps. Elle le dit d'ailleurs. Un jour, elle va en Martinique. Elle rencontre Édouard Glissant, qui était l'un de ses amis. Elle a rencontré beaucoup de monde. Et elle pensait avoir oublié un détail, les saveurs de la forêt, les bruits de la nuit, les rugissements des animaux, comme ça, dans la nuit épaisse. Et arrivée en Martinique, tout cela lui est revenu. C'est-à-dire que son corps avait conservé une mémoire vive. Et tous ces bruits ne sont revenus que lorsqu'elle a été au contact de la Martinique, une terre qui ressemblait un peu à celle qu'elle avait quittée il y avait près de 40 ans de cela.
Tout à l'heure, Jennifer Richard disait que son roman était un livre sur le marché, sur le capitalisme. On a vu qu'Éric Emmanuel Schmitt raconte ce moment de bascule dans l'histoire de l'humanité où on invente ce qui deviendra le capitalisme. Diriez-vous que ce roman, Eugène Baudet, qui raconte l'histoire de Mado sur fond de décolonisation, mais surtout de colonisation, la belle époque pour les Français et puis la pire époque pour les Africains, est aussi une histoire du capitalisme.
C'est une histoire du capitalisme, c'est vrai, parce qu'il y a l'exploitation des ressources à une échelle très grande. Et cette exploitation, je la montre aussi dans les communautés expatriés qui vivent en Afrique. Et il y a aussi, derrière cette exploitation et derrière ce mouvement de la colonisation, il y a une mémoire qui ne convoque pas seulement Proust et la Madeleine, puisque nous parlons de Mado, mais qui convoque aussi ce qui a à voir avec un autre fil, qui est ce qui nous est supérieur. Ce fil, c'est l'art, c'est l'imagination, c'est la relation avec l'autre. Il y a eu, dans cette ère de la colonisation dont je parle et dont j'évoque les travers, il y a eu des gens qui ont saisi une main, qui ont tendu une oreille secourable, qui ont même fusionné avec l'Afrique au point de penser qu'ils en étaient. Il y a par ailleurs, et ça c'est quelque chose qui est un peu difficile à dire, mais avec votre permission, peut-être que je le ferai, si vous le voulez bien, m'adresser au président de la République. De manière, c'est une supplique que je veux lui adresser au nom de Mado, qui a mis en œuvre effectivement à Céret un mouvement autour du musée de Céret, qui est devenu un musée carrément internationale. Et j'aimerais que le président Macron puisse se rendre à Céret au mois de mai, si Covid le permet, pour inaugurer un nouveau musée qui aura une surface double. Et je pense que par cet acte, Mado serait très heureuse et accompagnera un jeune président pour tendre une main secourable à la fois à l'art, à la mémoire, à la capacité d'une femme venue d'Afrique, d'une jeune femme qui est maintenant une grand-mère. Là, il pourra aider à la réconciliation des mémoires.
Nous sommes témoins de cette supplique.
Voilà, nous sommes témoins, vous aussi, vous en êtes le témoin, les témoins. Et puis, effectivement, là, il aura dans votre roman tout le fil de son discours, du serment de Koufra au regard brûlant et à rien concupiscent tout de même de Picasso. C'est aux éditions Gallimard. Brûlant était le regard de Picasso. Puisque nous avons parlé d'histoire tout au long de la soirée, j'aimerais que nous rendions hommage à l'un de ceux qui a su le mieux en parler, la mettre en scène, la scénariser, puis peut-être l'écrire. Jean-Claude Carrière est mort la semaine dernière. Cyrano, c'est lui à l'écriture. Danton, c'est lui. Le retour de Martin Guerre, c'est encore lui. La controverse de Valladolid, c'est toujours lui. Borsalino, c'est aussi lui. Puis bien d'autres grands films historiques. Il était venu évidemment très souvent sur ce plateau. Les règles du roman historique et du scénario du film historique par Jean-Claude Carrière. Réécoutez-le, regardez-le. Vous écrivez ceci, Jean-Claude Carrière, un auteur, scénariste ou autre, donc écrivain, chaque matin doit tuer son père, violer sa mère et trahir sa patrie. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que s'il s'interdit d'aller dans ces directions-là, il finira dans un bol d'eau tiède. Il écrira du sirop, il écrira des choses sans intérêt qui n'oseront pas aller jusqu'au fond de nous-mêmes. Et ça ne vaut pas seulement pour les scénaristes, ça vaut pour les romanciers, ça vaut pour toute personne qui désire exprimer quelque chose de ce que nous sommes. Il faut oser aller jusque-là. Je suis né dans le seul siècle qui a inventé de nouvelles écritures. C'est le seul. Si on commence avec le 20e, le tout début du cinéma, jusqu'à maintenant, toutes les nouvelles techniques inventées ont nécessité une nouvelle écriture ou, si on préfère, un nouveau langage.
Et vous dites ça avec l'œil qui brille, comme si c'était une chance.
C'était très, très excitant pour moi qui viens d'un milieu qui était le contraire d'un milieu cultivé. Oui. Je suis né dans une maison où il n'y avait pas un livre et pas une image. Et j'ai passé ma vie dans les livres et les images. Ce qui est très, très étonnant, c'est cette sublimité de la guerre que l'on met au-dessus de tout. Et alors que la paix est très souvent déconsidérée, on ne se rend pas compte à quel point la guerre a été chantée partout, sur tous les tons, par tant de bouches, alors que la paix reste humblement cachée un peu partout. L'accès à la science, comme Hubert le disait tout à l'heure, est une joie avant tout. Mmh. C'est un bonheur. C'est pour ça que nous avons mis en exergue les deux vers de Victor Hugo.
Extraordinaire. Oui. L'unique but de la science, c'est d'être immensément joyeux.
Il n'y a rien de plus agréable que le savoir et rien de plus triste et de plus dangereux que l'ignorance.
Non, est-ce que vous croyez, vous, qu'il y a une éternité ?
Non, il y a une éternité peut-être de l'univers. En ce qui me concerne, non, je ne suis pas éternel.
Mais est-ce qu'il y a ce qu'on appelle l'immortalité ? Vous savez, le transhumanisme en ce moment est en train de nous changer un peu cette notion.
Il y a tout un chapitre là-dessus, il est impossible de se prononcer pour l'instant là-dessus, parce que si on supprimait la mort, il faudrait aussi supprimer la naissance. Ouais. Et ça, ce serait beaucoup plus difficile. Il y a deux choses qui m'ont beaucoup servi, la beauté et le rire. Ouais. Parce qu'on peut aussi mourir de rire. Et c'est peut-être la meilleure manière de mourir.
Vous voudriez mourir de rire ?
Mourir en riant, ce serait en effet un rêve absolu.
Quelle sortie !
À condition que ce soit d'abord la chute de l'histoire, et que ce soit une histoire que je ne connaisse pas.
L'élégance et le trait d'esprit, c'était ça, Jean-Claude Carrière, dans ses films, dans ses scénarios, dans ses livres, et puis dans la vie également. Éric Emmanuel Schmitt, vous avez entendu cet éloge de la curiosité.
Oui, c'était ça, Jean-Claude. Moi, je l'ai bien connu. Il y a juste sur le point des religions, on n'était pas d'accord. Mais autrement, il avait cette curiosité incroyable. Et puis, vous avez mentionné tous ces films historiques, mais il faut aussi dire les choses sublimes qu'il a fait avec Buñuel. Parce que le cinéma de Buñuel, c'est avec Jean-Claude Carrière. Et c'est des chefs-d'œuvre qui resteront.
On arrive à la fin de cette émission. Merci d'y avoir participé, Jennifer Richard, Eddy Kadour, Eugène Baudet, Eric Emmanuel-Schmidt. Merci à vous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, sur ce plateau, tiens, on va parler justement de la façon dont on écrit sur soi, dont on raconte sa vie, avec Chantal Thomas, Philippe Delerme, Lionel Duroy. D'ici là, la petite librairie, tous les jours, sur toutes les antennes du groupe France Télévisions. Vous pouvez revoir cette émission en replay ou en podcast, comme on dit en excellent français, bref, en balado-diffusion. Et dans un instant, c'est Karim Rissouli pour C'est ce soir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite de très belles lectures. À mercredi. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.